Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui, comme la semaine dernière,
Lim Wang Nok, délégué national à l'économie du Parti Socialiste.
J'adore. Alors, au lendemain du 6 mai, on a entendu des appels venant de toutes parts appelant à refonder la gauche, ou même mieux, à réfléchir à ce qu'était être de gauche. Appels parfois inquiétants quand ils venaient de Dominique Strauss-Kahn ou des Gracques et étaient amplement relayés par les médias classiques. Gauche est dans un tel état de déliquescence qu'elle ne sait même plus ce qu'elle est.
Oh bah, être de gauche ou être de droite, c'est un vieux débat. Il y a toujours eu dans l'histoire ceux qui pensaient qu'on pouvait faire un petit peu mieux que la situation dans laquelle on vit, et ceux qui pensent que c'est trop risqué de faire mieux et il vaut mieux conserver les choses en l'état. Donc conservateurs et progressistes ont toujours existé dans l'histoire politique depuis la nuit des temps. Maintenant, dans le débat actuel, comme à chaque défaite, il y a des gens qui appellent à la rénovation. Mais le débat sur la rénovation, là non plus, ne date pas d'aujourd'hui. C'est un débat ancien qui remonte en ce qui concerne la séquence actuelle, peut-être à 1979, c'était il y a une trentaine d'années. 79, c'est le congrès de Metz, où Michel Rocard s'oppose à François Mitterrand et à Jean-Pierre Chevènement, et c'est le congrès qui voit la première gauche triompher de la deuxième gauche, puisque Mitterrand, qui arrive vainqueur de la course à l'investiture présidentielle à cette époque-là, s'appuie sur le programme de Jean-Pierre Chevènement contre Michel Rocard pour l'appliquer entre 1981 et 1983. Donc c'est un vieux débat qui, d'ailleurs, contrairement à ce que l'on pense, a été remporté par les chantres de la rénovation du logiciel socialiste aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire que à partir de 1983, ce sont les idées de Michel Rocard qui l'emportent au PS et plus largement dans toute la gauche. Sont les idées de Michel Rocard qui l'emportent sans Michel Rocard, à l'exception de la période où il fut Premier ministre entre 1988 et 1991. Mais si vous prenez le programme de la gauche en 1997, celui qui est appliqué dans les faits entre 1997 et 2002, c'est le programme de la deuxième gauche, avec la baisse des impôts, la décentralisation en version acte 2, la montée de l'épargne salariale, la prime pour l'emploi, etc. Donc, il est faux de dire que depuis 25 ans, ce sont les minorités archaïques, comme le disent les rénovateurs, qui dirigent le Parti Socialiste et qui influencent la gauche. On a l'impression, en écoutant les journalistes, de nombreux observateurs, que depuis 25 ans, eh bien, ce sont des idées qui prônent l'État. Il y aurait trop de dépenses aujourd'hui, il y aurait trop d'impôts, il y aurait trop de charges, il y aurait trop de rigidité. On a l'impression que c'est les idées de la première gauche, de la gauche montagnarde, qui aurait mis la France en faillite, comme le dit l'actuel Premier ministre. On a oublié quand même que depuis 1983, ce sont plutôt les idées libérales qui ont triomphé, que ces plans de rigueur sur plans de rigueur qu'on a vu défiler sont des mouvements de retrait de l'État dans de nombreux domaines de l'économie. C'est le recul de l'impôt républicain, c'est le recul du droit du travail. Et le vrai enjeu aujourd'hui, me semble-t-il, à écouter les uns et les autres, c'est que on assiste à une offensive sociale généralisée pour remettre en cause l'idée même de redistribution dans notre pays. L'offensive libérale a commencé par détricoter les fils du contrôle public de l'investissement, avec les différentes vagues de privatisation, 86, 93, 97, on a confié aux intérêts privés le contrôle des industries stratégiques de notre pays. On a commencé à détricoter la redistribution avec la réforme des retraites en 93 et en 2003. Mais aujourd'hui, on veut aller plus loin. On veut revenir définitivement sur l'un des piliers du compromis de 1945, qu'est la sécurité sociale, non seulement avec l'achèvement de la réforme des retraites à travers le symbole de la fin des régimes spéciaux, mais aussi avec la montée en puissance des franchises médicales qui vont être annoncées demain et qui seront sans doute remboursables par les assurances complémentaires. Donc, il y a ce pilier du compromis de 45 qui est mis en cause. Il y a, et c'est un fait nouveau, le chantier de la réforme du droit du travail qui va arriver. Droit du travail qui est un autre pilier du compromis de 45 qui s'était ordonné autour du contrat à durée indéterminée. Là, l'idée du contrat unique nous ferait revenir carrément en arrière par rapport au progrès qu'a constitué le CDI vis-à-vis du travail journalier, qui était la norme qui prévalait au début du XXe siècle. Et donc, cette offensive pour revenir sur la protection du salariat et sur tous les mécanismes de redistribution sociaux et même fiscaux, hein, on pourrait parler du paquet fiscal, aujourd'hui trouve écho dans la gauche. Et on a pu voir au cours de la campagne présidentielle une candidate qui a carrément fait campagne sur des thèmes de droite, qui n'étaient pas ceux qu'avait retenu son parti lors de son dernier congrès. Ça, les observateurs ne l'ont pas retenu, mais quand vous prenez le thème de la lutte contre l'assistanat, quand même désigne les chômeurs à la vindicte populaire. Quand vous prenez le thème de la réhabilitation de l'entreprise, réconcilier les Français avec l'entreprise, c'est plutôt le contraire qu'il faudrait dire, réconcilier les entreprises avec les Français. Bon, mais là on a dit le contraire. Quand vous prenez le thème des jurys populaires, de l'encadrement militaire, et je pourrais allonger la liste, ce ne sont pas des thèmes de gauche. Et ceux qui aujourd'hui prônent une certaine opposition constructive ne font qu'entériner les thèmes que la droite néoconservatrice a mis sur le tapis. Et l'opposition constructive reviendrait à partir de ce moment-là simplement à amender le programme des néoconservateurs. Et le vrai débat, il est là aujourd'hui. Est-ce que la gauche a un projet de société alternatif à opposer à celui de la droite néoconservatrice qui a résolument rompu avec le gaullisme, hein, malgré certains accents gaulliens qui arrangent fortement Nicolas Sarkozy lorsqu'il faut s'occuper de la question sociale symboliquement tout du moins, mais c'est une droite qui a rompu avec le compromis dont le général de Gaulle était l'incarnation en 1945. Donc est-ce que la gauche se contente d'amender ce programme-là? Et c'est ce que propose la droite du Parti Socialiste, qui d'ailleurs, pour la plupart de ses leaders, n'est que l'héritière de la deuxième gauche de Michel Rocard. Ou est-ce que elle oppose dans cette compétition avec la droite un programme alternatif, projet contre projet, et c'est ce, à mon avis, à quoi la gauche devrait travailler.
Mais d'un certain côté, Michel Rocard avait raison, le capitalisme a gagné, est triomphant, et à cause de la mondialisation, de la compétitivité incessante qu'il faut avoir, on ne peut faire preuve que de réalisme, et pour justement être compétitif, accepter de mettre à bas éventuellement la protection sociale, etc. Effectivement, peut-être que la gauche ne peut rien proposer d'autre dans le contexte économique international actuel, non?
Oui, mais il n'y a pas un seul capitalisme. Il y a des capitalismes, tout comme il y a des socialismes. Le capitalisme tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas la fin de l'histoire. Il y a eu d'autres capitalismes, et il y aura sans doute d'autres capitalismes, et le capitalisme que nous subissons n'est pas le plus efficace des capitalistes. des capitalismes. Il est incapable d'assurer le plein emploi et il met en scène, dans de nombreux pays, une situation de sous-investissement. On estime aujourd'hui que ce capitalisme-là est efficace sur le terrain économique et qu'il vaut tous les sacrifices du monde sur le plan social. Mais c'est un capitalisme qui est absolument inefficace. Aujourd'hui, la France et l'Europe dans son ensemble subit une panne d'investissement depuis une dizaine d'années. Il y a des profits énormes qui sont faits, qui sont distribués sous forme de dividendes qui eux-mêmes alimentent la spéculation financière et immobilière, mais les entreprises consacrent très peu leurs profits à l'investissement et ils ne s'endettent plus aujourd'hui pour investir sur le long terme. Situation tout du moins en Europe et en particulier en France. Donc ce n'est pas un capitalisme efficace. Il y a eu des capitalismes plus efficaces et si l'on prend, je ne suis pas gaulliste, hein, mais si l'on prend la France du général de Gaulle, j'aime à dire qu'elle était beaucoup plus socialiste que l'Angleterre de Tony Blair et qu'elle était beaucoup plus juste sur le plan social au sens où il y avait un ascenseur social qui fonctionnait relativement à cette période si relativement au cours de cette période si on la compare à ce qui se passe aujourd'hui.
Des souris des hommes sur Aligre FM, on est toujours en compagnie de Lee Morgna, qui est délégué national au Parti Socialiste et proche d'Emmanueli et de Hamon. Alors c'est marrant parce que tout de suite je me disais, oh là là, Lee, il est vraiment ringard. Il a l'air de regretter les 30 glorieuses, il nous parle du compromis de 45, mais le compromis de 45 c'était un compromis national. Or là maintenant la nation est enserrée dans l'Europe d'une part, dans la mondialisation d'autre part. Enfin bref, on est carrément dans une autre dimension, donc qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que vous proposez?
Oui, mais tout l'enjeu précisément est conférer à l'Europe les contours politiques de ce que l'on a pu faire à une certaine époque à l'échelle nationale, si l'on estime que l'Europe est le niveau pertinent de résistance à la mondialisation libérale. Il faut doter dans ce cas l'Europe d'institutions politiques qui nous permettent de domestiquer les effets pervers de la mondialisation néolibérale. Alors, ce sujet est tabou parce que les partisans de l'interventionnisme politique se replient généralement sur des positions caricaturées de souverainistes. Et de ce fait, ils refusent généralement le débat sur l'extension des institutions politiques à l'échelle européenne qui donnerait naissance à une Europe à leurs yeux trop fédérale, au nom du fait que c'est la nation qui serait le terrain absolu sur lequel la politique pourrait se faire. Et c'est là que nous avons au Parti Socialiste un certain nombre de divergences avec nos amis chevènementistes, par exemple, qui ne sont plus au Parti Socialiste. Eux pensent que l'Europe politique est une utopie, mais ils ne disent pas, parce qu'ils ne tirent pas les conséquences de leur positionnement, que dans ce cas, il faut faire campagne pour un retour aux francs. Bon, à partir du moment où on a fait l'euro et que l'on essaye de remplir une bouteille à moitié pleine, l'enjeu, c'est de doter l'Europe d'institutions politiques qui aujourd'hui font défaut pour faire fonctionner l'euro d'une façon non libérale, si vous voulez. Donc tout l'enjeu, il est là. Est-ce que en Europe, dans ce cas, on lance le débat avec les Britanniques, qui s'opposent à toute idée d'Europe politique? Lancer le débat, ça signifie en tirer les conclusions si les Britanniques ne veulent pas aller plus loin dans l'Europe politique. Et donc ça suppose que on ose inviter nos partenaires de l'euro à faire l'Europe politique sans les Britanniques et dans ce sens incarner l'idée de nation à l'échelle européenne déboucherait sur le long terme à l'idée d'une constitution dans la zone euro, mais une vraie constitution avec élaborée par une vraie constituante avec des institutions politiques permettant l'harmonisation fiscale, permettant le déploiement d'un budget communautaire et permettant un certain protectionnisme à la frontière européenne, c'est-à-dire à la frontière des 13 membres de l'euro. Bon, ça doit être la feuille de route à long terme pour ceux qui pensent que la politique puisse reprendre ses droits sur sur l'économie néolibérale, mais au moins il faut être clair sur ce cap, et je pense que dans toute la gauche, personne n'est clair sur ce qu'il entend proposer comme alternative à l'Europe et au traité simplifié que M. Sarkozy s'apprête à faire ratifier.
Mais les rapports politiques internes à l'Europe ne sont pas favorables à une Europe dite sociale ou en tous les cas non libérale, y compris à l'intérieur de l'Eurogroupe, c'est-à-dire des pays qui participent à l'euro.
Oh, les choses sont plus compliquées qu'on ne le croit. Des personnalités telles que Valéry Giscard d'Estaing ont récemment déclaré qu'elles avaient tiré les leçons de la dernière séquence où l'Angleterre, une nouvelle fois, avait affirmé son refus d'aller plus loin dans l'inclusion de certains domaines dans le champ de la majorité qualifiée. La fiscalité, mais aussi la politique extérieure, etc. Et il y aurait un consensus assez large, incluant y compris un certain nombre de centristes, sur la question européenne, hein, j'entends, pour repartir de l'Eurogroupe, donc à 13 et non pas à 27, et ressaisir la perche que l'ancien ministre des Affaires étrangères allemand Joschka Fischer nous avait tendue de faire l'Europe politique avant de faire l'élargissement.
Et ce noyau de quelques pays, finalement, vous proposez de resserrer l'Europe autour d'un noyau de quelques pays ?
D'un noyau dur, oui, tout à fait, pour montrer l'exemple, avec un vrai budget qu'on pourrait financer par l'emprunt. Jacques Delors proposait dans le livre blanc de la Commission européenne le lancement d'un emprunt pour un programme de grands travaux. Ça signifie que pour la première fois, on pourrait financer le budget communautaire par l'emprunt. Il y a une épargne importante en Europe qui ne sert pas à alimenter l'investissement aujourd'hui, qui pourrait être mobilisée à cet effet et qui permettrait très concrètement de financer les zones en difficulté et de favoriser l'harmonisation fiscale qu'on inscrirait dans les textes et dans le champ des règles négociées à la majorité qualifiée. Et dans ce schéma, rien ne s'oppose à une harmonisation vers le haut des normes sociales, fiscales, environnementales, si un tel schéma budgétaire se déployait. Mais de nombreux acteurs de l'Eurogroupe seraient d'accord avec ce schéma qui est loin d'être un schéma utopique.
Et les socialistes, d'une façon générale, seraient aussi d'accord sur ce schéma ? Parce que moi, j'ai quelques souvenirs d'un oui au traité constitutionnel qui ne me semblait pas être s'orienter vers la possibilité d'avoir des politiques privilégiées à plusieurs.
Oui, mais les partisans du oui s'inscrivaient dans une situation où l'élargissement avait été décidé et où à 27, effectivement, on ne peut pas obtenir un meilleur texte. À 27, vous ne pouvez pas, avec les Polonais, les Britanniques, et les positions qu'ils défendent, obtenir un meilleur texte, au sens d'un texte politique que le traité constitutionnel qu'on nous a servi. Mais si on le fait à 13, la situation est différente. Les 13 sont dans l'euro, ils ont un vécu commun et des intérêts pour que se déploie un budget et une harmonisation fiscale. Après, reste ensuite à discuter dans ce cadre-là du pacte de stabilité et du rôle de la Banque Centrale Européenne, mais le débat me paraît aujourd'hui ouvert.
Et quelle place à ce moment-là pour la démocratie réellement au sein de l'Europe ? Moi, c'est toujours quelque chose qui me pose problème.
Bah, écoutez, quand on est passé des différentes régions, provinces françaises à la République, bon, on a fait l'unité française sans trop de problèmes au bout de quelques temps, même si au début, il y a eu toujours des résistances vendéennes, etc., quoi. Bon, là, c'est pareil. Si on veut réaliser véritablement l'unité européenne, à 15, cela me semble beaucoup plus réaliste, y compris sur le plan de l'attachement des habitants de ces 15 pays-là à l'idée européenne, qu'à 27.
On pourrait vous dire qu'à l'époque, le mode de décision politique, c'était la négociation démocratique par l'intermédiaire du vote, hein. Tandis qu'au niveau de l'Europe, les choses se font de...
Ah, vous savez, c'est pas aussi idéaliste que ça, idéal que ça. À l'époque, c'était le suffrage censitaire quand même, hein, avant la Constitution. La première Constitution, c'était le suffrage censitaire. Le peuple n'avait pas grand-chose à dire. Ici, moi, j'ai parlé d'assemblée constituante l'autre jour, enfin, tout à l'heure, pardon. Rien n'interdit d'imaginer un scénario de ce type si... l'on pense à une véritable Europe politique.
Des sous et des hommes toujours en compagnie de Lee Mohannock qui décidément me déconcertent. Alors si j'ai bien compris, de gauche sait faire passer le projet politique par l'Europe. Enfin, mais le problème, c'est qu'on est quand même au minimum 13, disiez-vous, et les autres vont pas forcément être tout à fait d'accord pour nous suivre comme ça sur un chemin progressiste, si tant est qu'on réussisse, en tant que Français, à aller dans cette direction. Alors on fait quoi dans ce cas-là, si ça passe pas par ça?
Bah écoutez, à partir du moment où on a fait l'euro, il faut explorer le scénario jusqu'au bout et ne pas rester au milieu du guet. Si ce scénario n'arrive pas à son terme, s'il échoue, et il peut échouer si on le reste en l'état, supposé qu'on adopte un traité simplifié qui maintienne les choses en l'état. Moi, je vois mal la situation perdurer comme cela à 27. Bon, si ça échoue, il faudra en tirer les conséquences. Et pour moi, l'euro est un instrument. C'est pas une fin. Si cet instrument ne sert pas à faire avancer le progrès économique et social, bah, il faut en utiliser un autre. Le franc a été un instrument pendant une période. Et si nos partenaires ne veulent pas se doter d'instruments qui permettent de faire fonctionner correctement l'euro, permettant l'harmonisation fiscale et permettant de déployer le budget communautaire, l'Europe s'engagera dans les affres d'un dumping social dont on voit déjà les résultats et les conséquences néfastes sur le plan économique et social. Donc dans ce cas-là, bah, il faudra revenir aux monnaies nationales. Mais avant... que d'ouvrir ce débat-là, je pense que, puisque le choix de l'euro a été fait, il faut essayer jusqu'au bout, si l'on est progressiste, de faire en sorte que la solution internationaliste prévale et que les citoyens européens se dotent à la fois d'une monnaie et d'institutions politiques permettant de faire vivre tout le monde ensemble.
Pour revenir un petit peu au thème du débat, qui était au départ réformer la gauche, il y a vraiment des possibilités à terme qu'il y ait justement un rapport de force là aussi interne à la gauche favorable au fait d'aller dans une direction qui serait approximativement la vôtre, en tous les cas progressiste quoi.
Bah, écoutez, là il faut dépassionner le débat parce que moi j'entends beaucoup de gens réclamer une scission du Parti Socialiste, autant à la gauche du Parti Socialiste que... à la droite du Parti Socialiste, parce que quand les uns et les autres appellent à la clarification, ça veut dire que si on clarifie une ligne, ça veut dire que ceux qui ne sont pas d'accord avec cette ligne s'en vont. Et les rénovateurs aujourd'hui, enfin ceux qui se nomment rénovateurs et qui réclament la clarification, verraient d'un bon œil le départ de l'encombrante aile gauche du Parti Socialiste. Bon, mais là il faut dépassionner les choses, parce que si l'aile gauche s'en allait, ou si le parti éclatait en deux tout simplement, qu'est-ce qui se passerait? Bah, ces deux composantes ne se parleraient plus pendant un moment. Il se passerait ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne, où M. Lafontaine, qui va faire des résultats honorables aux prochaines élections, ne dialogue plus du tout avec ses anciens camarades du SPD. Si bien que, lors des dernières législatives, la gauche était majoritaire. Et cette scission dans la social-démocratie allemande a conduit tout droit à la grande coalition avec Madame Merkel. Et le Linke de La Fontaine a se réfugié dans une position oppositionnelle confortable, mais qui le rend pour le moment relativement impuissant à peser sur les décisions qui sont prises dans la social-démocratie allemande. Donc si c'est ça qu'on veut, si c'est ça que veulent ceux qui se proclament aujourd'hui social-démocrates ou rénovateurs, c'est pas forcément la meilleure solution pour le camp du progrès. C'est la raison pour laquelle nous essayons d'être unitaires pour deux, si vous voulez. Quand je dis nous, c'est ceux qui essayent de conserver une certaine boussole à gauche, et notamment dans le parti, le seul qui aujourd'hui puisse servir de parti d'alternance. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas dans un scénario de division et de scission des socialistes. Nous essayons de préserver l'unité de la gauche le plus longtemps possible, quitte à faire en sorte que la boussole soit mise en avant pour l'on retrouve la bonne direction. Mais si vous voulez, c'est un vieux débat. Je l'ai dit tout à l'heure pour commencer, c'est un débat qui remonte à il y a 30 ans, Rocard-Chevènement. Ce débat ne fait que se poursuivre avec des nouvelles générations, de nouvelles générations, qui sont les chevènements d'aujourd'hui, qui sont les rockers d'aujourd'hui, vous amuserez à faire la comparaison, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a tout simplement le centre de gravité, le rapport de force qui s'est déplacé en faveur de la deuxième gauche, au détriment de la première gauche. Et tout l'enjeu de la bataille idéologique qui se mène aujourd'hui, c'est peut-être de redéplacer le centre de gravité de la gauche dans une autre direction, de faire en sorte que la gauche montagnarde, finalement, retrouve des couleurs.
Alors, c'était des sous et des hommes en compagnie de Lee Mong-nok, qui vient juste de publier, je vous le rappelle, 10 questions plus une à Lee Mong-nok sur la dette. C'est un livre qu'il faut impérativement lire pour contrecarrer l'idée que diffusent à l'envi les médias classiques selon laquelle la dette française serait une véritable catastrophe. Voilà, alors la semaine prochaine, nous pourrons entendre Bernard Tepper de l'UFAL, c'est l'Union des familles laïques, qui nous parlera justement du problème des franchises médicales. Ça y est, maintenant on commence à être un petit peu plus au courant de à quelle sauce on va être mangé. Et je tenais à vous signaler que ce samedi, le 29 septembre, de 13h30 à 18h, se tiendra un grand meeting réunissant tous ceux qui s'opposent au principe des franchises médicales. Ça sera au gymnase Japy, c'est dans le 11e, de 13h30 donc à 18h. Voilà, à la semaine prochaine.